Bien, nous sautons maintenant, si je peux dire, plusieurs administrateurs pour parvenir à un autre membre du laboratoire de Rinsky et administrateur, en la personne d'Alain Prochian. Alain, à toi.
Merci. Chers amis, chers collègues, je commencerai par l'œuvre scientifique de Jacques Glowinski, dont la modestie et l'engagement au service de la collectivité masquent parfois l'importance. Pourtant, ses travaux sur les amines cérébrales sont des classiques, aux applications inappréciables, telles le développement d'une classe d'antidépresseurs encore utilisée en clinique aujourd'hui. Pas plus qu'on ne saurait nommer tous ses héritiers scientifiques, en France comme à l'étranger, on ne saurait faire la liste exhaustive des découvertes auxquelles son nom restera attaché. Dans la continuité de ses travaux dans le laboratoire de Julius Axelrod, prix Nobel 1970 de physiologie ou médecine, Jacques, à la tête de l'unité INSERM U114, une des premières équipes accueillies au Collège de France, a développé des recherches précliniques dans le domaine des maladies neurologiques et psychiatriques. Elle lui assurait rapidement une place parmi les plus grands. Il ne s'en vantait jamais, marque d'un caractère certes affirmé, mais fondamentalement humble, le contraire de l'esbrouf. Les honneurs le laissaient assez froid, allant jusqu'à refuser, j'en fus témoin, de remplir son dossier de présentation à la National Academy, à laquelle ses collègues américains souhaitaient le faire élire. Jacques m'était comme un grand frère venu sur le tard, et nous entretenions des relations affectueuses, même si parfois compliquées. Comment oublier que lui et Isabelle, à qui je pense souvent, m'accueillaient chez eux, rue de Boulainvilliers, avec mon ami, sans eux. Ouverture d'esprit peu fréquente dans les années 1970. Il n'était pas plus misogyne qu'il n'était homophobe, et son laboratoire abritait à égalité des femmes et des hommes d'une grande qualité scientifique. Marie-Jo Besson, France Javoie, Anne-Marie Thierry, Michel Hamon, Patrice Guinet, Jean-Paul Tassin, Solange Lavielle, Yves Agide, Catherine Barthélémy et bien d'autres, qui m'excuseront de ne pouvoir tous les nommer. Chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, Marie-Hélène Lévy, bien entendu, formions une famille, et comme souvent, dans les familles, nous nous querellions. C'est bon de se retrouver aujourd'hui, certains d'entre nous, pour dire publiquement notre gratitude et notre admiration. Jacques a profondément influencé mes champs d'intérêt scientifiques qui ont dévié de la biologie du développement pour venir s'inscrire dans la prolongation de ses travaux sur la physiologie des amines cérébrales et les maladies neurologiques et psychiatriques. C'est cela, un maître. Un maître et un humain très sensible, excessivement possessif. Et quand je lui ai dit que j'allais partir pour l'école normale, j'ai cru lire dans son regard « Mais qui c'est celle-là » Un épisode de brouille, parmi bien d'autres, toujours pénible, mais toujours surmonté. Jacques Glowinski et Pierre Corvol, qui lui succéda comme administrateur, m'ont fait venir dans cette maison. Comme je m'y étais engagé, j'ai quitté le cocon douillet de l'école normale. Il avait donc gagné. Pour restructurer, sous leur houlette, la recherche biologique au Collège de France. Nous disposions, grâce à Jacques, de flocaux flambant neufs, plusieurs milliers de mètres carrés, pour la chimie et la biologie, en attendant la physique et l'Institut des civilisations. D'autres parleront mieux que moi de son engagement architectural. Mais il faut rappeler qu'il s'agissait avant tout d'un engagement scientifique pour le Collège. La volonté visionnaire, pas partagée par tous, loin de là, d'amplifier quantitativement et qualitativement les activités de recherche intramuros. Cela passait par l'installation de nouvelles équipes de professeurs, mais aussi de non-professeurs, les fameuses équipes accueillies. Les premières étaient naturellement issues des laboratoires des professeurs Alain Berthoz, Pierre Corvol, Jacques Glowinski, Philippe Sansonetti et moi-même. Pêle-mêle, Sidney Wiener, Michel Zugaro, Catherine Laurence-Cortès, Stéphane Germain, Laurent Venance, le regretté Christian Giaume, Nathalie Roache, Alain Joliot, Sophie Vrise, Ariel Dinardo, Julia Fuchs, Guy Tranvagneux. Tous, avec le dévouement infatigable de Nicole Brohr et le soutien jamais démenti de Pierre Corvol, ont œuvré à réaliser le projet de Jacques et accueilli avec enthousiasme et générosité de nouvelles équipes dans ce centre interdisciplinaire de recherche en biologie qu'ils venaient collectivement de créer. Depuis 3 ans, nombre de ces excellentes équipes, recherches très originales, trop sans doute, ont été forcées au départ ou ont reçu leur feuille de route. Je comprends leur amertume et je la partage. Il va peut-être falloir reconstruire. Comment donc s'étonner si, à travers quelques anecdotes, je consacre une poignée de minutes à rappeler en quoi ce centre s'efforçait de répondre à la conception que Jacques se faisait de la cité scientifique. J'avais préparé, à Paris 7 et au MIT, une thèse consacrée au séquençage d'un fragment d'ARN messager du virus de la mosaïque jaune du navet, très loin du cerveau. Un comité théodule eut hésité. Mais pas Jacques, qui me confia une petite équipe serrée sur 30 mètres carrés, au sous-sol du bâtiment B, sans lumière naturelle et dans la puanteur d'une animalerie très années 70. Où le coq de Mademoiselle Agneau, trompé par l'obscurité, cocoricotait à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Nos recherches ont tâtonné 5 ans, en mise au point laborieuse, sans une seule publication. Le CNRS s'inquiétait, il retardait ma titularisation. Puis, entre 1980 et 1984, 4 lettres consécutives dans Nature. Ça aurait pu rater. Mais Jacques avait pris le risque de protéger de sa confiance un projet difficile et ambitieux. Il n'était pas du style à évaluer ses collègues en comptant les publications ou les contrats comme on compte les pots de cornichons dans son garde-manger. Sa vision était un peu plus vaste et ses façons un peu plus élégantes. Pathétiquement fier de mes travaux sur le fragment 3' terminal de l'ARN messager du virus de la mosaïque jaune du navet, je regardais parfois les recherches précliniques et les liens du laboratoire avec l'industrie. Jacques travaillait avec Ron Poulenc, de l'œil vaniteux d'un vrai chercheur fondamental, qui plus est gauchisant. Agacé, il me convoqua un jour dans son bureau, tapotant sa pipe sur son cendrillon Nol, et me dit « Mais enfin, crois-tu qu'il existe une physique pour construire les ponts et une autre pour expliquer pourquoi ils tombent, une physiologie pour la santé et une autre pour la maladie ? Ne sais-tu pas qu'une pathologie, c'est une physiologie qui déraille et que les pathologies fournissent des modèles à la physiologie ?» Et de me renvoyer à Claude Bernard et Brown-Séquard, puis, plus proche de nous, dans ce collège que nous aimons, à Alfred Jost, François Morel, Yves Laporte, et lui-même, ça laissant dire. Plus tard, Pierre Corvol, Alain Fischer, Hugues de Thé, chercheurs et cliniciens hors pair, sont venus compléter cette magnifique cohorte. Un jour, je lui expliquais que je voulais m'installer ailleurs, et totalement indépendant. Il me rappela qu'en 1965, un trio de chercheurs pastoriens avait amené la France à Stockholm. Seuls les comités théodules, encore eux, s'inquiétant de qui du trio menait la danse. Et d'insister sur le plaisir de penser ensemble, sur l'importance d'une émulation scientifique, même si elle peut être conflictuelle. Cela ne m'a pas empêché de partir, mais j'ai retenu la leçon. Ce ne sont pas les règles administratives qui font les découvertes, ce sont les personnalités. Whatever works, tel était son unique principe. Et si les travaux produits sont novateurs, pourquoi, au nom de schémas artificiels, casser ce qui marche ? La solidarité entre les individus se doublait dans son esprit de celle entre les équipes, indispensable dans une communauté. Et nombreux sont ceux qui l'a aidé, en particulier quand il siégeait au CODIS. Philippe Lazare et Pierre Corvol, pour autant témoigner. Il nous appartient à tous de ne pas oublier ce pragmatisme, cette générosité et cette solidarité dont il a donné l'exemple. Je l'ai rappelé plus haut, l'égalité entre les sexes lui tenait particulièrement à cœur. Et c'est dans la continuité de cet engagement égalitaire que j'ai tenu à maintenir au niveau du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie, peut-être un jour, pourquoi pas, Centre Jacques Glowinski, une parité entre les sexes. Nous avons été un des premiers centres de recherche où cette égalité était presque parfaite, l'exception des mathématiciens ayant un peu tordu la règle que j'avais imposée dans les recrutements. Unique directive donnée au comité de recrutement. Je pourrais continuer ad libitum, mais j'ai promis d'être bref. Alors, cher Jacques, je ne prétends pas avoir atteint, loin de là, le niveau scientifique qui fut le tien. Je n'aurai jamais non plus ta puissance visionnaire, mais j'ai hérité d'une part de ta combativité. Tu en as d'ailleurs parfois fait les frais. Combativité hier, combativité aujourd'hui, et combativité demain, puisqu'il y aura toujours des engagements pour les causes que nous croyons justes. Alors, c'est dans la fidélité au Mensch que Jacques Levinsky, le Glot, sera toujours, pour ceux qui l'ont connu, admiré, aimé, que j'emprunterai pour clausule littéraire le titre d'un roman du grand écrivain espagnol Javier Marías, « Cher Jacques, demain, dans la bataille, pense à moi ».